C'est 23.
L'essentiel de Paul Arcand, tout ce que vous devez savoir chaque jour en moins de 60 minutes. Bonne écoute.
Mercredi 31 août, bonne journée, bienvenue au 98.5. Vous dire d'abord qu'il y a par endroit des épisodes de pluie, même ça peut être intense, mais de courte durée parce qu'on prévoit aujourd'hui un ciel généralement nuageux, il y aura quelques percées de soleil et c'est surtout la baisse des températures qu'il faut noter, le maximum prévu autour de 22. Pour ce soir et cette nuit encore là, peut-être un peu de pluie, rien de majeur, possibilité d'orage, mais c'est quand même relativement faible, avec un minimum de 15. Et puis demain, jeudi, journée de dégagement, relativement frais, autour de 19 degrés. Et on termine la semaine vendredi avec du soleil et 26 degrés. Avant de parler de la campagne électorale, je vais attirer votre attention sur trois événements. D'abord, le bilan des températures et du climat en Europe durant l'été. Été 2022 a été véritablement infernal. Et le journal Libération fait le point. Je vous donne quelques exemples. La France, dès la mi-juin, les 40 degrés Celsius ont été dépassés. C'est le deuxième été le plus chaud depuis 1959. Ailleurs dans le monde, Royaume-Uni, alerte rouge. En juillet, en raison de la chaleur, en Italie, toujours en juillet, le glacier de la Marmolada dans les Alpes du Nord s'effondrait. La Chine connaît une vague de chaleur incroyable. Ça vient à peine de s'atténuer. Pendant 70 jours, les températures ont dépassé 45 degrés. Ce qui amène partout dans le monde, sécheresse, inondation, les rivières, les lacs qui sont à des niveaux extrêmement bas. Et on peut ajouter l'Italie, donc la Grèce, l'Espagne, ce qu'on vient de voir récemment aussi au Pakistan, alors que les inondations ont été massives. Au printemps, d'ailleurs, on avait des endroits où le mercure indiquait 50 degrés. Le tiers du territoire est désormais sous les eaux. Pourquoi je vous dis ça ce matin? Parce que des experts en France disent dans 20 ans, quand on va regarder l'été 2022, on va se dire c'est un des étés peut-être les plus frais. Parce que cette tendance est lourde, elle est probablement irréversible. Et le défi, ce sera d'essayer de ralentir cette cadence, puis aussi de s'adapter. Et je pense que ce genre de portrait transcende beaucoup d'enjeux électoraux dont on parle depuis quelque temps. La question climatique est effleurée. Je comprends que la campagne est jeune, là, mais je pense que c'est important qu'on puisse faire ce constat sur ces changements. Et Alain Bourque d'Ouranos sera avec nous pour en parler tantôt. L'autre nouvelle, évidemment, extrêmement importante, le décès de Mikhail Gorbatchev, 91 ans. C'est un homme qui a changé le monde. Il a été au pouvoir avant d'être poussé à l'extérieur. Et c'était évidemment à l'époque de l'Union soviétique. Et quand vous regardez le bilan de ce qu'il a fait, c'est quand même impressionnant. Il n'a pas pris le pouvoir pour démanteler son pays. Mais en quelques années, il a mis fin à la présence militaire en Afghanistan. Il a été le premier à rendre public les informations sur la catastrophe de Tchernobyl. Il a tenté d'amorcer des réformes démocratiques. Il a également fait le ménage dans la bureaucratie, dans la corruption. Et il a aussi permis la libération d'un dissident, le physicien Sakharov. Et évidemment, fin de la guerre froide, effondrement du mur de Berlin et un nouveau paysage européen, de nouvelles relations. Je vais en parler avec l'ex-premier ministre Brian Mulroney un petit peu plus tard ce matin. Mais c'est un homme qui a profondément changé l'histoire. Et la phrase qui revient souvent, s'il avait été candidat dans un autre pays que la Russie, il aurait été élu. Et dans son pays, comme il a bousculé une bureaucratie, un système politique contrôlé, influence des services de renseignement, des militaires. Alors, il était détesté. Je ne ferai pas le cours au complet, puis l'arrivée de Boris Yeltsin. Et Gorbatchev, par la suite, a été pas mal isolé, faisant beaucoup d'activités à l'étranger, beaucoup de discours, des tournées, on l'a vu jusqu'à ces toutes dernières années. Donc, un personnage majeur dans l'histoire de la planète. Il a vraiment changé la face du monde. Et des proches disaient hier, des gens qui l'ont bien connu, que son engagement politique était assez traditionnel au départ. Et il aurait dit à son ministre des Affaires étrangères un jour, « Quand je vois ce qui se passe, quand j'entends ce qui se passe, on peut pas fermer les yeux, puis on peut pas fermer les oreilles et ne pas amorcer de profonds changements, une fois au pouvoir. » Et l'autre nouvelle, ben, ça concerne le président Trump, qui est, je sais plus comment qualifier ça, mais on apprend ce matin qu'il y avait 3 fois plus de documents secrets en Floride chez Trump que ce que la police pensait. Et des documents, là, éparpillés dans la maison, un peu dans son bureau, dans d'autres pièces. Et on a pu voir hier des photos de ces documents. Alors que les avocats de Trump prétendaient, non, on vous a retourné tout le matériel, là. Vous avez demandé ça au mois de janvier, février, mars. On vous a retourné des caisses. Alors, c'est faux. Des informations de toute nature sur le président Macron, des serveurs. Bref, une liste assez complète de ce matériel. Voilà pour ce qui est de ces 3 événements majeurs. L'autre volet, bien sûr, la campagne électorale. Quoi vous dire? D'abord, je vais commencer par le Parti libéral parce que ça ne va pas bien du tout. Et Mme Anglade, qui est déterminée, qui est combative, dira jamais ça. Puis je comprends, elle va dire le contraire, que tout va bien, tout est sous contrôle, ce qui n'est pas vrai, là. Ce qui n'est pas vrai. Le parti va mal. Que le Parti libéral ne soit pas capable de recruter des candidats, que les gens refusent, que tous les candidats ne sont pas choisis, la machine libérale qui n'est pas capable de livrer des candidatures dans tous les comtés, c'est du jamais vu, là. On voit en termes d'intention de vote que c'est la catastrophe, en particulier chez les francophones. Et même dans les bastions libéraux, on peut s'attendre à un effondrement du vote. Le parti va gagner, probablement. Mais pas avec les marges qu'on a vues dans les dernières années. Ça va vraiment mal. Et hier, caquistes et libéraux annoncent grosso modo la même chose, le même crédit d'impôt pour les personnes aînées. Puis là, Mme Anglade dit, ben là, c'est de la copie, c'est les caquistes n'ont pas d'idées, ils viennent nous voler nos idées. Franchement, on ne peut pas dire que ça contribue à la hauteur du débat. Une campagne électorale, en principe, l'objectif, c'est de mettre des idées aussi sur la table, puis d'en discuter, et qu'on arrive à peu près à ce même genre d'opération, ma foi, c'est pas si grave que ça. Dans les autres promesses, Québec solidaire est arrivé avec cette idée de baisser la taxe de vente sur certains produits. Je suis pas un expert, je sais pas ce que Pierre-Yves en pense. Mais j'ai regardé ça, je me suis dit, c'est bien compliqué. Pourquoi les restaurants baisseraient la taxe? T'sais, pis là, on peut dire, pourquoi ce produit-là, pourquoi pas celui-là? Qu'est-ce qui est essentiel, qu'est-ce qui ne l'est pas? Puis Québec solidaire qui répond, ben oui, mais prenez la même liste que pendant la pandémie, mettez un peu là. C'est quoi l'objectif? C'est d'aider les gens qui en ont besoin. Puis autant les baisses d'impôts, tout azimut, c'est improvisé, c'est du court terme. Autant cette technique-là, est peut-être pas la meilleure, qu'on donne une aide ponctuelle en période d'inflation aux gens qui en ont besoin, personne ne va s'objecter. Mais tu sais, de trouver une espèce de... Appelons ça, là... façon de calculer en disant ça fait lourd, ça fait bureaucratie. L'autre élément intéressant, c'est ce que le Parti québécois propose sur les changements climatiques, accélérer la transformation du parc automobile. Et on va en parler avec les concessionnaires, Robert Poitty, là, qui est l'association des concessionnaires. Est-ce que c'est possible? Si vous avez acheté ou commandé un véhicule électrique, vous le savez que c'est long. Et une des raisons, c'est surtout que le Québec, le Canada en général, est pas en mode rapide pour changer le parc auto, contrairement à d'autres pays. Et donc, les fabricants vont envoyer leurs véhicules en période d'une certaine rareté ailleurs qu'au Canada. Alors, est-ce qu'on peut rattraper ça? Et la proposition de Saint-Pierre Plamondon à cet égard est quand même intéressante. Éric Duhaime, ben, il carbure à deux choses. D'abord, un peu la pandémie. Un peu beaucoup, là, la grogne, l'insatisfaction. Et sa façon de faire, c'est de proposer des solutions en tenant compte de la réalité d'aujourd'hui, en disant, j'aurais peut-être fait ça, moi, au début de la pandémie. C'est facile à dire quand les vaccins sont maintenant disponibles, que le virus a progressé et qu'on n'est pas comme à l'étape du renouveau, enfin, de la découverte plutôt. T'sais, rappelez-vous la pandémie au début, là, on ne savait pas c'était quoi. Il n'y a pas de vaccin. On voyait ce qui se passait ailleurs dans le monde. Alors, tu sais, je comprends qu'il y a eu de la grogne, puis je comprends, là, tout n'était pas parfait. Là. Ben des décisions qu'on peut remettre sur la table. Pas d'enquête publique sur les centres de soins de longue durée, une tragédie. Je trouve ça inacceptable. Mais on peut pas refaire l'histoire en tenant compte de ce qu'on sait maintenant. C'est un peu facile. Et aussi de s'inspirer de M. Harper pour ce qui est de la gestion, puis de couper dans les programmes, puis réduire la taille de l'État, tout en donnant de l'argent à bien du monde. Alors, c'est pas mal le résumé de cette campagne électorale. Vous dire aussi peut-être un mot, pour finir là-dessus, là. Dans la presse ce matin, des patrons d'entreprises qui s'inquiètent de l'application de la loi 96 sur la protection du français. Et là, vous avez des gens qui sont dans le domaine des lunettes, de la viande, de la lingerie fine. 37 signataires. Et ces gens-là disent que c'est pas la protection du français qui est en cause, mais ils sont inquiets de l'application. Et aussi pour permettre à ces entreprises d'avoir les outils de francisation. Donc, ils ont peur d'être poussés rapidement vers des changements pour lesquels ils sont pas prêts. Alors, on verra sans doute la réaction aujourd'hui en campagne électorale. Bon, il y a une caricature, vous l'avez vu, c'est certain, là, qui a fait le tour de l'actualité hier, qui a provoqué beaucoup de réactions, qui a été publiée dans le journal de Gazette. Et c'est le caricaturiste Boris qui a fait le dessin de son vrai nom, le Jacques Goldstein. Et essentiellement, ce qu'on voit, bien sûr, c'est cette image de René Lévesque, cette espèce d'affiche pour marquer le centenaire. Et c'est une vieille dame qui tient un chien. Et elle est dans le drapeau du Canada, là, l'unifolié. Et le chien urine sur l'image, l'affiche. Là, c'est parti en vrille là, sur les réseaux sociaux, puis c'est épouvantable, puis c'est bon. Et là, l'auteur du dessin de la caricature a tenté de se justifier une partie de la journée. On va lui parler aussi tantôt. Moi, je vous dirais deux choses. D'abord, la liberté de faire un dessin, une caricature. Puis là, je veux pas ramener les caricatures de Mahomet, là. Tu sais, on s'est tous levés en bloc, là, puis on a dit la liberté d'expression. Ben, si c'est vrai pour les caricatures de Mahomet, c'est vrai pour ses dessins. On peut être choqué, on peut trouver que c'est laid, que c'est mesquin, que c'est pas à la bonne place, puis que, tu sais, mais on peut pas interdire une publication comme ça. L'auteur dit qu'on a mal compris. Le problème, c'est que quand tu comprends pas une caricature, c'est comme artiste, t'as pas fait ton travail. Je comprends pas ce que tu essaies de me dire. Et ça ouvre la porte, donc, à plusieurs interprétations. J'ai pas trouvé ça vraiment, là, perso... On est capable d'en prendre, là. Mais celle-là, il y avait quelque chose, un premier coup d'œil. Tu te dis, puis dans deux gazettes. Alors là, c'est sûr que ça vient comme nourrir en disant, ben voyez même, ça recommence. Puis c'est une insulte à René Lévesque. Puis en plus, hier, arrive ce sondage concernant quelle province vous intéresse le moins. Puis on peut voir le sondage de différentes façons. Mais en gros, ce que ça dit, c'est que le Québec est l'endroit où les gens ont moins le goût d'aller. Puis là, il y a toutes sortes de raisons qui sont données. Je connais pas personne, je parle pas la langue, la géographie, bref, ça les intéresse pas. Alors que c'est la Colombie-Britannique qui est l'endroit où les Canadiens ont le goût d'aller. Quand ils parlent de d'autres provinces, l'Alberta, puis après ça, bon, ben le Québec, c'est évidemment l'endroit qui intéresse moins les gens. Alors, encore, sur les réseaux sociaux, j'ai vu ça hier, là, c'est reparti en disant, ben voyez, il est temps qu'on fasse un pays, voyez, les gens nous aiment pas, puis ils font des caricatures de M. Lévesque, puis ils veulent pas venir au Québec, puis c'est bon. Je pense que le débat souveraineté fédéraliste est un peu plus, disons, à un niveau supérieur que un dessin puis un sondage. Maintenant, on va en parler aussi de ce projet qui a été annoncé pour contrer la violence armée. On vous parlait d'un autre événement dans Côte-des-Neiges. Donc, le service de police de la Ville de Montréal qui annonce la création du programme, du projet ARRET, ce qui veut dire Action, Répression, Résolution, Engagement et Terrain. C'est supposé commencer après la fête du travail et on a mobilisé ou on va mobiliser 68 policiers, temps plein, partout sur le territoire. La question, et je l'entends de policiers qui m'écrivent, puis c'est la question l'éléphant dans la pièce, là. Si vous prenez 68 policiers et policières puis vous les amenez dans la même unité, vous les prenez où puis il se passe quoi? Dans les postes de quartier ou dans les autres sections? Parce qu'au même moment, on le sait, il y a des policiers qui quittent, des gens qui partent à la pré-retraite, des gens qui partent même alors qu'ils sont pas éligibles à la retraite. Et le Journal de Montréal dit ce matin que, au fil des ans, le nombre de policiers qui vont avoir le droit de quitter est extrêmement élevé. Puis là, on a beau nous annoncer un programme, Nicolet, puis le recrutement, là, 1673 policiers pourraient prendre leur retraite entre le 31 décembre 2021 et la fin de 2026. 558 sont déjà admissibles et pourraient partir rapidement. Fait que ça demeure un enjeu quand même spectaculaire. Alors voilà pour ce programme qui a été confirmé hier. Rapidement, quelques nouvelles. D'abord, vous dire que les voitures pourront à nouveau circuler sur l'avenue Mont-Royal, qui était piétonnière depuis le début de l'été. Et il y a des gens qui se posent la question, avec raison, pourquoi on fixe une date comme celle-là alors qu'on le sait que le mois de septembre est un mois où les températures sont quand même agréables? Est-ce qu'on va pas un peu trop vite? Alors, c'est la décision. C'est toujours étonnant, des décisions comme ça. Ils peuvent décider de fermer une rue, consulte pas trop le monde, puis là, arrangez-vous. Puis là, ça s'est mieux fait. Les gens, puis je suis allé là, puis les gens, c'est vrai que ça donne un environnement intéressant. Pourquoi statuer qu'après la fête du travail, c'est terminé? Un des mystères de l'arrondissement. Et je rappelle que c'est l'anniversaire, 25 ans aujourd'hui, de la princesse Diana qui perdait la vie dans le tunnel de l'Alma à Paris, pourchassée par des paparazzi avec un chauffeur en état d'ébriété. Elle était avec son conjoint, Dodi El Fayed. Alors, ils ont percuté le mur et malheureusement, elle est décédée.
Vous écoutez l'essentiel de Paul Arcan en 60 minutes. De retour après la pause. L'essentiel de Paul Arcan.
On se souvient tous de la mort terrible de Jason Collin, ce jeune homme qui a été tué par balle le 10 août dernier, alors qu'il était avec des amis tout près d'une école un mercredi soir à Montréal-Nord. Personne n'a été arrêté. Tout de suite, on nous a dit, avec raison, il n'y a pas de lien avec des gangs criminels, il n'y a rien dans son passé, les policiers ne le connaissent pas. Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi il est mort? Sa mère est avec nous ce matin, son conjoint également que je vous présente, René de Casséus, bonjour.
Bonjour, M. Arcan.
Et Robertson Berlus, bonjour.
Bonjour.
D'abord, est-ce que vous avez eu du nouveau sur l'enquête? Est-ce que vous arrivez à comprendre ce qui est arrivé à votre fils?
Jusqu'à ce jour, on se disait que c'était un rêve, sauf qu'on a procédé aux funérailles en fin de semaine, donc on est bien obligé de s'avouer que non, c'est pas un rêve, que c'est réel. Et non, on n'a toujours pas plus d'informations par rapport à ce qui est arrivé. Et on ne comprend pas plus qu'est-ce qui est arrivé.
Il était avec des amis, tout simplement.
Des amis qu'il fréquente régulièrement, des ex-joueurs d'hockey comme lui. Ils se rencontraient une fois de temps en temps, parler de, d'école, d'affaires, de toutes sortes de choses pour après rentrer chez eux.
Et contrairement à d'autres parents, vous avez cette expérience parce que vous êtes intervenant psychosocial, vous êtes travailleur de rue, donc le travail communautaire, c'est pas quelque chose qui est inconnu pour vous là. Normalement, vous intervenez auprès des victimes, sauf qu'aujourd'hui, c'est vous la victime.
Jusqu'à ce que oui, ce soit nous les victimes. C'est moi tout seul, j'accumule 20 ans d'expérience, au moins 15 ans à Montréal-Nord en matière d'intervention jeunesse et famille. Donc pour moi, ce n'est pas de l'inconnu, ce n'est pas tout nouveau, donc c'est quelque chose que j'ai toujours eu à cœur de protéger ou d'encadrer en fait les jeunes pour justement qu'ils puissent avoir un meilleur avenir parce que ces jeunes-là sont appelés à avoir un meilleur avenir.
Est-ce qu'on se dit comme mère, est-ce que j'ai échappé quelque chose dans la vie de mon fils? Est-ce qu'il y a une tranche de vie qui...
Si... Certainement que je me suis posé la question. Cependant, Jason, c'est à l'unanimité, Jason est parti heureux. En dépit des circonstances, Jason était très aimé, très apprécié de tous, de ses collègues, de ses anciens condisciples de classe. C'était un enfant aimé. Juste au funérailles, il y avait plus de 2000 personnes qui sont venues assister pour lui dire un dernier au revoir. Donc là-dessus, on avait une super belle relation avec Jason. On avait des belles conversations. On avait une complicité, en fait. Oui, c'était mon fils, mais c'était aussi mon ami, mon confident, mon complice, en fait. Donc, c'est pas un enfant que c'est un étranger, puis on sait pas trop qu'est-ce qu'il fait, qu'est-ce qu'il devient. Donc, à tous les jours...
Il y avait une proximité entre vous.
Il y avait
vous.
Une proximité. On avait une super belle relation.
Monsieur Berlus, vous êtes travailleur de rue.
Oui.
Qu'est-ce que les auditeurs qui vous écoutent ce matin doivent savoir sur le travail que vous faites? Ce qui se passe avec les jeunes à Montréal-Nord, c'est le coin que vous connaissez. Là. Qu'est-ce qui serait important pour eux de connaître? Parce qu'on regarde ça, nous, de l'extérieur, puis on se dit pourquoi, qu'est-ce qui se passe avec les jeunes dans certains arrondissements de Montréal?
Ben déjà, il faut comprendre que je pense que ça se passe partout, mais si on parle de Montréal-Nord, que je connais beaucoup plus, je pense que les jeunes ont été trop longtemps mis à l'écart. Il y a un manque de considération aussi qu'il y a par rapport aux jeunes. Et ce manque de considération-là, c'est oui au niveau des jeunes, au niveau des citoyens aussi. Puis nous, on le vit présentement parce que il faut comprendre que j'ai 18 ans de travail de rue juste à Montréal-Nord. René a 20 ans d'intervention, dont 15 ans jeunesse-famille. Et jusqu'à aujourd'hui, on n'a pas eu d'appui ou d'appel, que ce soit des organismes, que ce soit des arrondissements, en termes d'offres de services ou de quoi que ce soit par rapport au de soutien. Fait qu'on n'a rien eu, fait qu'on se dit, si nous qui sommes connus, on n'a rien eu, qu'est-ce qu'en est-il des familles qui n'ont pas les moyens de se faire connaître, qui n'ont pas le vocabulaire, quoi que ce soit, puis d'autant plus qu'en est-il de ces jeunes-là qui sont laissés à eux-mêmes, qui doivent prendre des décisions. Là, on a affaire à des jeunes qui ont peur, des jeunes qui sortent de leur voiture, qui courent pour rentrer chez eux. Ce sont des jeunes qui ont absolument rien à se reprocher. Ils ont absolument rien à se reprocher. Puis c'est à ça qu'on fait face. Fait que là, on est rendu avec des jeunes qui pensent peut-être même à s'auto-protéger, ce qui est très dangereux parce que là, ça devient vraiment chaotique. Puis c'est à ça qu'on a affaire présentement.
Quand vous dites aucun appel, aucun soutien de l'arrondissement ou d'organismes communautaires, êtes-vous surpris de ça? Comment se fait-il qu'après avoir vécu un tel drame et être encore plongé à l'intérieur, qu'il n'y a personne de l'arrondissement de Montréal-Nord ou d'organismes qui viennent vous voir, vous appellent en disant « Est-ce qu'on peut faire quelque chose pour vous aider? » Êtes-vous étonné de ça?
Je vous dirais oui et non. Oui, parce que je me serais dit peut-être pour nous, il y a eu une exception. Ils auraient peut-être une plus grande mobilisation. Il y a eu quelque chose par rapport à ça. Puis quand on parle d'aider, c'est pas oui, on a des amis qui vont peut-être faire un appel, mais on parle vraiment en termes d'organisme, en termes de responsabilité d'arrondissement, d'organisme, de faire un appel, de voir au bien-être des gens. Ça, on l'a pas eu. Et non, parce que bien souvent, quand il arrive des incidents, ben c'est moi qui est appelé, c'est Ronnie qui est appelé, c'est l'organisation pour laquelle que je travaille qui est appelé. Donc si c'est nous qui sommes touchés, ben il y a personne d'autre à appeler.
Quand vous êtes appelé, qu'est-ce que vous dites aux gens qui passent par ce que vous vivez actuellement?
Ben c'est du cas par cas, en fait. Hein. Souvent, malheureusement, juste avant que ça nous arrive, j'ai dû accompagner au moins 3-4 familles qui vivaient de telles situations, mais ça s'est pas soldé par la mort. Mais bon, c'était de réconforter le jeune, de s'assurer qu'il est droit au service. Est-ce qu'il a fait sa demande, exemple, au CAVAC? Est-ce qu'il a été proposé par le CAVAC? Est-ce qu'il a besoin d'aide psychologique? De parler aux parents, de désamorcer la crise aussi, parce que certains parents se disent, est-ce que mon enfant est dans quelque chose? Puis nous, vu qu'on connaît l'enfant, on le côtoie, on peut dire, non, voici qu'est-ce qui se passe et tout. On met un cadre pour vraiment s'assurer que la personne, as-tu été chercher les services dont tu as besoin? As-tu tous les services dont tu as besoin? Qu'as-tu besoin d'autre? Puis on va t'aider, on va cheminer avec toi.
Madame Cassius, vous avez dit, il y a d'autres jeunes comme mon fils,
ouais,
qui craignent, qui ont peur, qui vivent un peu dans l'espèce d'angoisse. Au-delà des opérations policières, puis qu'est-ce que la société peut faire pour ces jeunes-là, selon votre expérience?
Ben en fait, déjà en partant, mon fils est accompagné de 3 jeunes, et ces 3 jeunes-là sont encore secoués. Dont un qui vit encore avec une balle dans le corps. Donc ce jeune-là, on voit qu'il est désemparé. Il est stressé, il est anxieux. On voit qu'il n'est plus la même personne. Donc il y a beaucoup de ces jeunes-là qui ont besoin d'être encadrés, qui ont besoin d'être considérés. Parce que malheureusement, surtout quand on est issu d'une certaine communauté, automatiquement que quelque chose comme ça nous arrive, c'est parce qu'on est affilié à des gangs. Mmh. Ce qui n'est pas du tout le cas. Donc pour un jeune qui n'est pas du tout affilié, et qui doit porter cette charge en plus de vivre dans la peur. Donc, il est complètement déboussolé, il perd confiance au système. Et pour ces jeunes-là, ils ont vraiment besoin d'être considérés d'abord, parce qu'on réclame toujours de l'argent, mais si on nous donne des milliards de dollars et ces gens-là ne sont pas considérés, nous ne sommes pas plus avancés.
Être considéré, qu'est-ce que ça veut dire concrètement?
Être considéré, ce qui veut dire que c'est une personne à part entière, peu importe sa couleur, son origine, dans quel quartier qu'il vit, c'est une personne à part entière qui a besoin qu'on le respecte, qui a besoin qu'on l'écoute, qui a besoin de savoir qu'est-ce qu'il vit, comment qu'il le vit, qu'est-ce qui l'a conduit à certaines choses, comment qu'il vit cette chose et qu'est-ce qu'il aurait besoin. Et non pas décider pour lui, ah oh oui, ben c'est un jeune, il habite à Montréal-Nord, ben il veut ça. Non. Quand est-ce qu'on a consulté les jeunes pour la dernière fois? Quand est-ce qu'on s'est assise avec eux, qu'on leur a demandé d'exprimer leur sentiment d'insécurité ou de sécurité? Qu'est-ce qu'ils aimeraient? Qu'est-ce qu'ils ont besoin? Comment qu'ils verraient ça? Ça ne se fait pas parce que on garoche constamment de l'argent sous prétexte que ça va régler les problèmes. On va donner de l'argent aux policiers, c'est une partie. Mais de l'autre côté, si on ne s'occupe pas de celui qui a réellement le besoin, comment on peut
mais dire naïvement, j'ai l'impression qu'on annonce des programmes, là, puis je mets de côté la police, mais voici un budget annuel pour les organismes communautaires. Moi, je suis convaincu que les organismes font ça, qui vont voir les jeunes, qui leur parlent, qui essaient de voir un peu comment répondre à leurs besoins. C'est pas ça qui se passe.
Premièrement, oui, il y a de l'argent qui est donné, mais si vous voulez devenir un joueur de hockey et on le donne à une équipe de basket, est-ce que c'est à vous que ça répond?
Non.
C'est souvent ce qui se passe, malheureusement.
Donc, l'argent ne va pas toujours nécessairement
non, l'argent
dans la bonne place.
Dans les partis pris, l'argent va chez les amis, l'argent va chez ceux qui nous supportent, ceux qu'on aime bien. Mais l'argent ne va pas nécessairement envers ceux qui ont besoin et qui vont faire la job. Parce que cette clientèle-là ou ces jeunes-là, ce n'est pas tout le monde qui est appelé à travailler avec eux. On ne va pas se raconter des histoires comme ce n'est pas tout le monde qui est appelé à faire de la radio. Donc, qui sont ces organismes qui s'intéresse, qui veut réellement le bien de ces jeunes-là, qui veut voir avancer les choses, qui veulent voir changer les choses. Donc, y a-t-il un plan de sécurité qui est mis en place? Si oui, ce plan de sécurité, il s'adresse à qui? Qui va le gérer? Comment, qu'est-ce qu'il contient? Jusqu'à aujourd'hui, M. Arcan, on n'a aucune idée de ça.
On a l'impression qu'on improvise beaucoup.
Effectivement.
Et que cette réalité ne date pas des dernières semaines ou des derniers mois, que c'est quelque chose de plus profond que ça.
Oui, c'est beaucoup plus profond que ça et ça fait longtemps, ben en fait nous ça fait 20 ans qu'on on répète, mais les choses sont toujours, demeurent parce que, bon, premièrement ce ne sont pas certains enfants qui sont touchés, donc en partant, on se sent peut-être désengagé ou bon moins concerné. Et aujourd'hui, c'est l'enfant de 2 personnes qui s'y connaissent dans le milieu. Donc, ce n'est pas l'enfant de monsieur et madame qui n'a pas trop de connaissances et puis qui ne sait pas comment encadrer ses enfants. Donc, ce n'est pas le cas aujourd'hui. Mm-hmm. Mais tous les autres personnes qui ont vécu ça avant nous, qu'est-ce qui a été fait pour eux? Qu'est-ce qui a été fait pour, justement, enrayer cette problématique d'armes qui se fait dans les quatre coins du pays?
Nous sommes en pleine période électorale. Vous êtes à la radio tous les deux ce matin, là. Si vous avez un message à envoyer aux décideurs là, qui demandent l'appui de la population, qu'est-ce que ce serait?
Moi, je pense que ça serait vraiment de se doter d'un réel plan. Un plan qui tient compte. Là, déjà, ils s'occupent du corps policier, OK, ça va. Mais un réel plan qui va aussi empêcher que ça se reproduise. Un plan qui inclut l'intervention, un plan qui inclut la prévention, un plan qui inclut des organisations qui sont réellement capables d'aller vers les différentes problématiques qui vont être ciblées. Un plan vraiment, parce que présentement, je pense que c'est vraiment, les gens font juste répondre à l'urgence. Visiblement, on voit pas de plan. Puis c'est vraiment, il faut un plan clair. Puis il faut que ce soit mis sur la table. Voici le plan. Voici où ce qu'on veut s'en aller. Et voici les organismes qu'on pense sont capables de répondre à ce plan-là parce qu'ils ont l'expertise, la connaissance, le terrain. Ils maîtrisent le terrain. Voici, c'est ça. Puis comme ça, ça va être clair parce que présentement, il y a de l'argent qui est donné, oui. Il y a des organismes qui reçoivent des montants d'argent, mais c'est des organismes qui clairement ne sont pas en lien avec les jeunes qui sont touchés ou qui subissent ou qui provoquent ce type de violence-là. Alors que donc c'est je pense que déjà c'est un bon début. C'est de reconnaître aussi qu'il y a un problème. C'est de reconnaître un aveu d'échec collectif. C'est de dire comme autant les organismes, autant le corps policier, autant le niveau politique, autant les résidents citoyens, de dire comme ça, on a échoué. On a échoué parce que il faut se l'admettre aussi, la société, elle hérite de la jeunesse qu'elle mérite. Donc, on a failli à quelque part, puis il faut faire un aveu collectif et tout mettre à terre, puis faire un plan commun pour qu'on puisse aller de l'avant. Injecter que de l'argent dans le système de police, ça ne fonctionnera pas. Même si, de la même manière, si on injecterait que de l'argent dans le communautaire, ça ne fonctionnera pas non plus. Il faut un équilibre. Puis je pense qu'il faut que ce soit clair, il faut que tout le monde se le dise, ça ne fonctionne pas. Il y a des jeunes qui meurent. On n'est pas censé enterrer des enfants. C'est les enfants qui enterrent les parents, puis c'est pas ça qui se passe présentement.
Très clair. Merci beaucoup d'être venu ce matin.
Merci à vous, M. Arcan.
Bon courage. René de Casseus et Robertson Berlus. Vous venez d'entendre ces témoignages très touchants de ces parents qui ont perdu un fils dans cette violence criminelle à Montréal, violence par balle. Le SPVM déploie le projet qui s'appelle ARRET, qui veut dire action, répression, résolution, engagement et terrain. Tout ça spécifiquement pour lutter contre cette violence, contre ces groupes criminels, ce qu'on appelle un peu le crime désorganisé. Pascal Richard est avec nous, inspecteur chef au SPVM, puis responsable du plan stratégique sur la violence armée. Monsieur Richard, bonjour.
Bonjour, Monsieur Arcan, merci de nous recevoir.
D'abord, c'est 68 policiers qui vont faire partie de ce projet. 68 policiers à temps plein, là. C'est leur mission unique.
Oui, à temps plein, effectivement. Faut pas oublier que la lutte sur les violences armées, c'est une priorité absolue pour le SPVM. Fait que oui, ces policiers-là seront complètement dégagés des appels. Ils vont vraiment être dédiés à la lutte aux violences armées.
Ça veut dire quoi, ça, être dédié? Quels sont les façon d'intervenir. Comment, qu'est-ce qui va se passer de différent?
Ben, en fait, avec cette équipe-là, on va innover. En fait, on va prendre des policiers terrain qui ont une expertise. Donc, des policiers en provenance des postes de quartier, de divers secteurs. Nous sommes en train de faire la dotation en ce moment. Nous allons greffer à ces policiers-là des enquêteurs chevronnés qui connaissent la violence armée, qui vont pouvoir aider les policiers, supporter les policiers sur le terrain. Ils vont vraiment faire partie de l'équipe. Et également des agents de renseignement qui vont être là pour guider les interventions de cette équipe-là. Nous allons aussi greffer des coachs en interpellation pour s'assurer que tout le travail qui est fait sur le terrain est fait dans le respect de notre politique en interpellation. Fait qu'ils vont être vraiment au même endroit, tous ensemble, avec une synergie. Ils sont dégagés des appels, puis leur mission première, c'est vraiment de perturber les opérations de nos criminels puis de nos membres de gangs criminels sur
ça
le terrain.
Ça veut dire quoi, ça, perturber les activités de ces gangs-là?
Ça va être de la patrouille active, de la visibilité, puis intervenir sur les sujets vraiment d'intérêt. On va faire du profilage criminel ciblé par notre groupe de renseignement qui va nous dire où travailler avec ces problématiques-là. Puis le but, mais puis c'est pas juste cette équipe-là également. On va engager que le projet ARES et l'ensemble du personnel du SPVM. Je peux juste faire quelques faits saillants. L'équipe Eclipse va être encore là, va continuer son travail au niveau des bars et tout ça, des endroits publics également. Et en fin de semaine, on avait bonifié l'équipe Eclipse pour nous donner le temps de faire la dotation de notre équipe multidisciplinaire qu'on va créer. Et Eclipse, avec la bonification, présent sur le terrain encore là ce week-end, on a intervenu auprès d'un individu qui est armé avec un arme dans son sac à la sortie d'un commerce. On a besoin aussi des citoyens qui sont nos yeux, nos oreilles. Sur le plateau Mont-Royal, l'information citoyenne ce week-end, fait que nos patrouilleurs patrouillent actives sur la rue Saint-Laurent. Information citoyenne, on intercepte un individu près d'un bar avec un arme de poing à la ceinture. Faut pas oublier toutes nos équipes dédiées aussi en enquête, nos équipes spécialisées comme EMAF, qui ont procédé à l'arrestation d'un quatrième suspect avec la police de Vancouver, qui nous a permis de saisir entre autres 3 armes de poing, plus de 200 munitions puis des chargeurs haute capacité. Fait que c'est l'ensemble de l'organisation du SPVM qu'on veut mobiliser dans cette lutte de violence armée.
OK. Dans un contexte de rareté de main-d'œuvre, puis encore des policiers qui quittent, ce matin, le Journal de Montréal dit que d'ici les 5 prochaines années, il y a plus de 1500 policiers qui potentiellement peuvent quitter pour la retraite, là. Êtes-vous en train de déshabiller des postes de quartier pour bâtir votre unité?
C'est certain qu'on va demander un effort encore additionnel à nos policiers. Il faut pas oublier que la période estivale se termine, donc on veut déployer cette équipe-là d'ici une dizaine de jours. Puis il y aura pas de fin pour cette équipe-là. On veut vraiment qu'elle soit là, permanente puis dégagée. Puis on met pas de date de fin parce qu'on veut vraiment enrayer le problème. Mais on va demander un effort additionnel à nos policiers. Vacances terminées. Montréal est une ville festive. On a eu beaucoup de pression sur les services d'ordre pour sécuriser nos sites festifs cet été. Ça aussi, ça se termine. Donc ça va nous donner la robustesse pour permettre de mettre en place là, cette équipe.
Mais parce que les citoyens qui vous écoutent vont dire, est-ce que ça veut dire que dans mon coin, il va y avoir moins de policiers parce qu'on en prend pour aller faire ce travail-là?
Non, on va quand même garder le canevas de nos policiers en poste de quartier qui est obligatoire. Là, les minimums vont être respectés, mais il faut pas oublier que cette équipe-là aussi va se promener sur l'ensemble du territoire. Donc, on va augmenter la présence policière sur le terrain un peu partout sur le territoire.
Il y en a combien de gangs de rue à Montréal?
Bon, ça, c'est pas une information que j'ai sous la main que je peux vous donner. Là,
mais en gros, le savez-vous?
Ben, c'est du crime désorganisé. Hein? Fait que oui, nos équipes de renseignement connaissent les sujets. Une équipe comme Eclipse aussi connaissent très bien les sujets. Fait que là, en mettant des équipes comme ça vraiment dédiées à ça, je pense qu'on va pouvoir mettre de la pression. Puis si j'ai un message à faire aux membres de gangs criminels ce matin, c'est que qui terrorise nos citoyens, qui terrorise les familles, ben ils vont nous trouver sur leur chemin. Là, prochainement, on va être présents.
Est-ce que c'est vrai que vous parliez tantôt d'une intervention en fin de semaine? Je disais dans la presse hier qu'on a visité des figures dominantes du crime organisé, le motard, mafia, pour passer un message. C'est vrai que ça s'est fait, ça?
Je pense que ça s'est fait via l'opération Centaure dans laquelle qu'on est impliqué. Fait que oui, effectivement. Il y a des contacts réguliers, hein, nos enquêteurs spécialisés puis nos groupes Eclipse parlent régulièrement. Puis c'est ce qu'on va demander à nos policiers, de sortir du véhicule, d'aller en contact autant que les bons citoyens pour aller chercher du renseignement. Parce qu'il faut pas oublier, comme je vous disais tantôt, ce sont nos yeux, nos oreilles. Fait que faut que les citoyens soient le 911, info crime ou aller en poste de quartier ou justement quand ils croisent des policiers sur le terrain de donner de l'info. Mais également, on va rentrer en contact avec nos membres de gang sur le terrain pour aller le jaser, là.
Est-ce que ça les dérange ce qui se passe, d'après vous, les gangs de rue, puis la mafia, puis les motards dans leurs activités commerciales?
Quand ils vont voir les postes de commandement se déployer, lorsqu'on va faire des opérations au blitz, au quotidien, comme je vous dis, que le nombre de policiers additionnels qui vont être déployés, je suis convaincu qu'on va déranger. Ils vont être moins à l'aise de se promener avec des armes à feu sur eux. Là. C'est le but de l'exercice. C'est qu'on ramène une certaine quiétude à Montréal, qu'on ramène un sentiment de sécurité. Et c'est vraiment, on baissera pas les bras devant cette violence-là.
La question que je me pose depuis les derniers jours, pourquoi ça a pris 2 meurtres en 30 minutes à Montréal pour que ça débloque puis qu'on arrive avec, par exemple, l'unité que vous dirigez?
Mais en fait, c'est qu'on...
Je sais que c'est pas pour vous qui décidez, là, mais tu dis que ça fait quand même des mois là, que ça se tire dessus. Là.
Mais faut pas oublier que ça s'inscrit, cette démarche-là, dans notre plan stratégique sur les violences armées qui a débuté l'automne passé en 2021. Fait qu'on est quand même actif depuis plus d'un an. On a mis beaucoup d'équipes en place, vous le savez, mais force est d'admettre que ça continue. Donc c'est pour ça qu'on en rajoute une couche. Notre directrice, la semaine passée, nous a demandé, pensant dehors de la boîte, on a mis en place un comité d'experts pour réfléchir. Ça, c'est une action très concrète, court terme.
Donnez-moi un exemple de ce que ça veut dire. Penser en dehors de la boîte.
Ben, penser en dehors de la boîte, ça peut être utiliser nos collègues de la Rive-Sud, de la Rive-Nord, entre autres, comme ça a été fait cet été, de continuer des opérations blitz comme ça, parce que vous savez, le crime n'a pas de frontières. Ça peut être de regarder aussi, parce qu'on parlait pas juste aussi de travail en répression, on va faire beaucoup de répression avec cette équipe-là, mais il y a beaucoup de travail à faire aussi en prévention, puis travailler en collaboration avec nos partenaires communautaires qui doivent nous aider dans cette lutte également. Fait qu'on a des projets qui s'en viennent, on a d'autres idées, donc une équipe école, entre autres, qui s'en vient, une équipe multidisciplinaire qu'on va déployer, si on va faire des annonces prochainement. Fait qu'on pense à tout ça, comment qu'on peut aller chercher notre jeunesse, comment qu'on peut faire mieux de prévention en amont, travailler sur les comportements aussi à risque, c'est le but.
Mais clairement, je donne un exemple, parce que je l'entends probablement, des gens qui vont dire, oh, t'es un peu là. Quand vous parlez d'un profilage criminel, est-ce que deux jeunes noirs à 11 heures le soir dans un véhicule, c'est une raison de les intercepter?
Non, tout à fait. On a quand même une politique en interpellation.
Mais c'est ça que je veux expliquer aux gens. Là, exactement. Parce qu'il y a beaucoup d'auditeurs qui vont m'écrire en disant, là, ça va recommencer, good old days. Puis là, dès que je suis dans un quartier, j'ai pas l'air d'être quelqu'un du coin, la police va... C'est quoi la différence entre un profilage racial et un profilage criminel?
C'est que le profilage racial, il ne respectera pas des faits observables. On a des balises qu'on a mis en place dans notre politique en interpellation. Puis c'est pour ça qu'on va doter cette équipe-là d'un coach en interpellation, justement pour s'assurer que ça respecte les balises. On va mettre également un lieutenant, deux lieutenants chevronnés qui vont coordonner les activités sur le terrain pour pas que ça parte ni à gauche ni à droite non plus. Puis nos policiers montréalais, là, ils sont professionnels. On est convaincus qu'ils vont travailler avec un grand savoir-être comme ils le font tout le temps là, au quotidien.
Il y a un policier à la retraite qui m'a dit l'autre jour, et dis-moi, quand je voyais quatre jeunes, peu importe la couleur de la peau, là, mais quatre jeunes, 3 heures du matin dans une auto, j'interpellais.
Ça prend des faits observables, puis que ce n'est pas une question de race ou de couleur.
Fait non, mais ça. Est-ce que pour vous, quatre jeunes à 4 heures du matin ou 3 heures du matin dans une voiture, ça peut amener une intervention? Vous faites quoi là?
Exact. Des fois, c'est comme je disais, on va rentrer en contact avec notre population. Il y a toute une façon de le faire avec doigté aussi quand on va parler avec les gens puis les citoyens. Puis c'est ce qu'on va demander à nos policiers de faire au quotidien pour éviter justement qu'on veut pas que la situation s'envenime. On travaille fort en matière de rapprochement avec la communauté. C'est tout aussi important dans le contexte actuel là, qu'on continue de
parce
garder
que
une
là,
bonne relation.
Vous avez beaucoup de policiers qui ont peur dans le sens. Pourquoi me mettre dans le trouble, puis je vais avoir un dossier, puis quelqu'un va me filmer, puis je vais me retrouver en déontologie, j'ai pas envie de ça. Puis pas des policiers qui lèvent le pied, là, mais des policiers qui craignent un peu l'effet actuel du balancier.
Ben, le travail à Montréal, on doit admettre qu'il est compliqué, il est complexe. Il y a beaucoup de pression. C'est un travail d'une métropole. Je pense pas qu'on retrouve ce type de travail-là ailleurs au Québec. Mais je veux juste vous dire que nos policiers sont encore engagés. Je fais la lecture des bilans opérationnels à tous les matins. Puis je vois des saisies d'armes, même en poste de quartier, par nos patrouilleurs. Fait que je pense que nos policiers sont encore engagés. Mais c'est pas simple. On peut pas dire que c'est une situation simple. C'est complexe. Puis on comprend la pression qui est mise sur nos policiers.
Mais ça, ça veut dire qu'il faut qu'ils sentent l'appui des boss, dont vous, puis il faut qu'ils sentent l'appui de la population. Puis je vous dirais de la classe politique aussi.
Tout à fait, ça va avec. Notre directrice d'ailleurs a parlé beaucoup la semaine passée. La valorisation du travail policier est importante pour garder nos policiers mobilisés, engagés. Puis je tiens à les remercier. Puis aussi nos partenaires communautaires, tout le monde qui fait la lutte sur la violence armée. C'est une responsabilité partagée. Puis je remercie tout le monde qui travaille pour améliorer le sentiment de sécurité de notre population montréalaise.
Monsieur Richard, merci d'être venu ce matin.
Merci de m'avoir reçu, c'est apprécié. Bonne journée.
Pascal Richard est l'inspecteur chef responsable du plan stratégique au SPVM.
Vous écoutez l'essentiel de Paul Arcand en 60 minutes. De retour après la pause. L'essentiel de Paul Arcand.
On va parler de la campagne électorale parce que, bon, c'est commencé officiellement depuis dimanche. Il y a eu une série de promesses, vous l'avez vu hier. Libéraux et François Legault proposent essentiellement la même chose pour ce qui est du crédit d'impôt pour les personnes aînées. Le PQ présente un plan pour combattre les gaz à effet de serre. Du côté de Québec solidaire, on veut jouer avec la taxe de vente pour aider les plus démunis en période d'inflation. Bref, il y a quand même un certain nombre d'enjeux sur la table. Et je veux regarder un peu comment ça se passe. Qu'est-ce que, j'allais dire, les scientifiques décodent dans le mouvement de l'opinion publique? Philippe G. Fournier est avec nous. Il est fondateur du blog qui est intéressant, qui vous montre des projections, c'est à suivre, Québec 125, et aussi chroniqueur au magazine L'Actualité. Monsieur Fournier, bonjour.
Bonjour, Monsieur Arcand.
D'abord, qu'est-ce que vous notez, vous, depuis le début de la campagne? Les mêmes tendances de fond? Est-ce qu'on perçoit des changements? Qu'est-ce que vous voyez?
Jusqu'à maintenant, évidemment, les données depuis le début de la campagne sont quand même assez limitées, mais celles que on a obtenues jusqu'à maintenant nous indiquent que c'est stable depuis le printemps. Les intentions de vote n'ont pas bougé, les taux de satisfaction du gouvernement non plus, et les choix préférés de premier ministre n'ont pas bougé. Donc, c'est vraiment le statu quo présentement. Et c'est très possible que l'électorat québécois ne soit pas nécessairement au diapason et qu'après la rentrée scolaire et après la fête du travail, tout ça puisse embarquer en deuxième vitesse.
Est-ce que ce que vous observez, c'est le cas habituel de campagne électorale? Est-ce que les gens s'y intéressent 10 jours avant le vote? Pour le reste, un peu une distraction, là?
En 2018, les chiffres n'avaient pas beaucoup bougé non plus avant le premier débat où M. Legault avait eu un petit peu de difficulté avec les questions sur l'immigration. Le fédéral, l'an dernier, aussitôt que Justin Trudeau avait dissous la Chambre, il avait perdu des points. Donc, ça change d'élection en élection. Mais il semblerait que bien des Québécois, leur idée soit faite, malgré qu'il y a encore beaucoup d'opposition à la CAQ. La CAQ est vraiment le parti préféré, environ de 40% des électeurs, selon les sondages.
Quelles sont les régions du Québec où les batailles risquent, selon vous, d'être les plus serrées?
Oh, il y en a plusieurs. Écoutez, M. Arcand, c'est très rare, lors des élections québécoises, que la région de Montréal ou l'île de Montréal même soit vraiment intéressante. Généralement, les courses sont décidées d'avance. Mais là, il y a plusieurs circonscriptions à Montréal où les courses vont être très serrées. Dans l'est de Montréal, on regarde dans la partie centrale où on regarde Verdun, entre autres, Maurice Richard dans la partie est de Ahuntsic. Et donc, il y a plusieurs circonscriptions à Montréal qui pourraient vraiment changer le portrait de l'Assemblée nationale pour les 4 prochaines années. Et évidemment aussi, je vais regarder l'est du Québec, le Bas-Saint-Laurent, la Gaspésie, où c'était le dernier grand bastion du Parti québécois. Vous avez remarqué, M. Arcand, que le premier ministre s'est présenté plusieurs fois dans la région afin de gagner du terrain et peut-être de remporter ces sièges-là aux dépens du Parti québécois. Donc, je vais vraiment regarder Montréal et le bas du fleuve.
OK. Parlons du Parti conservateur d'Éric Duhaime, là, qui canalise le vote des gens fâchés, on va les appeler comme ça, là. Est-ce qu'ils sont assez concentrés sur un territoire puis assez nombreux pour permettre l'élection d'un ou de 2 ou 3 députés?
La question est très bonne. À l'instant où on se parle, bien sûr, les chiffres vont changer au cours de la campagne, mais à cet instant-ci, on regarde 3 circonscriptions potentielles, celle de Chauveau, juste au nord de Québec, où le chef Éric Duhaime se présente. Ça risque d'être une circonscription serrée avec la CAQ. Et bien sûr, on va regarder Beauce-Nord et Beauce-Sud. Vous avez remarqué, M. Legault jouait un petit peu à la défensive hier, a parlé de liberté en Beauce. Et donc, c'est vraiment ces 3 circonscriptions-là qu'on va surveiller. S'il y a une montée du Parti conservateur, on parle peut-être pas de 14-15%, mais on parle peut-être de 19-20%. Oh là, attention, les couronnes de Québec et de Chaudière-Appalaches, on parle de Bellechasse, de Montmorency, de Charlebourg peut-être. Il y a plusieurs circonscriptions où le PCQ est projeté en deuxième place. Où là, il pourrait faire des gains, sauf qu'à 14-15% et peut-être 20 points derrière la CAQ dans la grande région de Québec, ça risque d'être difficile pour le PCQ.
Est-ce que le taux de participation, selon vous, va être un gros enjeu? Parce que on a été habitué, je parlais avec Jean-Marc Léger cette semaine, pendant des années, là, à 75%, les gens allaient voter. Puis là, je parle même pas des référendums. Mais on a vu ce qui est arrivé en Ontario lors de la dernière. Ça n'a pas voté très fort. Dernière fois au Québec, je me souviens pas par cœur, mais c'était aussi assez bas. Ça devient quand même un élément à considérer.
Ah, définitivement, absolument. Et ça n'aura pas le même impact pour tous les partis. Lorsque le taux de participation grimpe ou il descend, d'élection en élection, ce que l'on remarque, c'est vraiment le vote des jeunes qui importe. Au niveau fédéral, en 2011, lorsque Stephen Harper avait remporté sa majorité, les tranches d'âge étaient vraiment, vraiment marquées. Les jeunes n'ont pas voté lors de cette élection-là. Alors qu'en 2015, la première victoire de Justin Trudeau, le taux de participation remontait parce que les jeunes ont voté. Et donc, si le taux de participation devait chuter cette fois-ci, peut-être pas aussi dramatique qu'en Ontario avec 43%, imaginez 43% de participation. Mais si le taux de participation devait chuter, ça ferait vraiment mal à Québec solidaire. Parce que Québec solidaire, son créneau, c'est les jeunes électeurs. C'est les jeunes électeurs entre 18 et 34 ans selon les sondages. Et donc, si vraiment ces jeunes-là ne se présentent pas aux urnes et ne votent pas en grand nombre, parce que les boomers, eux autres, ils vont voter. Ça, je vous le garantis, ils vont voter, ils votent à chaque fois. Et donc, la CAQ pourrait remporter plus que 100 sièges si le taux de participation est plus bas.
Merci beaucoup. Bien intéressant, M. Fournier.
Un plaisir, M. Arcand. Bonne journée.
Bonne journée. Philippe J. Fournier, professeur d'abord, mais fondateur du blog Québec 125 et chroniqueur aussi au magazine L'Actualité.
Vous écoutez L'Essentiel de Paul Arcand en 60 minutes. Bonne écoute.
La nouvelle est tombée hier. Mikhail Gorbatchev, le dernier leader de l'Union soviétique, est mort à l'âge de 91 ans. Un personnage central dans l'histoire. Il a changé le monde à plusieurs égards. Et un qui a été appelé le côtoyé durant ces années. Puis pour les plus jeunes, il faut se rappeler, l'Union soviétique a disparu. le mur de Berlin est tombé, une certaine forme de démocratie est apparue, et on voit aujourd'hui, on est rendu avec un régime dirigé par Vladimir Poutine qui ramène un peu ses effets totalitaires de ce que représentait le bloc soviétique. L'ex-premier ministre du Canada, Brian Mulroney, est avec nous. Monsieur Mulroney, bonjour.
Bonjour, Paul.
D'abord, Gorbatchev, quel souvenir vous gardez de lui? Qu'est-ce que vous pouvez dire aux auditeurs sur cet homme-là qui a marqué l'histoire?
Eh bien, il est un ami, un bon ami, un homme visionnaire, qui effectivement a étouffé la menace nucléaire en provenant de l'Union soviétique et qui a participé, avec Ronald Reagan, à mettre un terme à la guerre froide, sans guerre. Alors c'était deux événements historiques, mais également la transformation voulue dans l'Union soviétique et finalement la disparition de ce pays et la naissance de la Russie, comme on le connaît aujourd'hui. Alors, c'était une vie tumultueuse, une période extrêmement difficile, mais Gorbatchev était un grand leader qui sera reconnu comme tel dans l'histoire.
Je lisais ce matin qu'il n'est pas, en fait, sa carrière politique ne l'amenait pas vers le démantèlement de l'Empire soviétique, qu'il aurait dit à son ministre des Affaires étrangères. Quand on regarde ce qui se passe, quand on entend ce qui se passe, on ne peut pas rester inactif. Il a senti, en prenant le pouvoir, si je comprends un peu là, à travers les lignes, ce besoin de procéder à des changements majeurs.
Oui, dans ce sens-là, il avait été guidé un peu par le Canada, dans le sens qu'en 83, avant qu'il n'accède à la présidence, il a fait une tournée prolongée au Canada. Il était ministre de l'Agriculture à ce moment-là. Il a bien vu la prospérité et la productivité de nos terres agricoles. Il m'a déjà demandé, « Oui, mais est-ce que c'est comme ça un peu partout à travers votre économie? » Puis j'ai dit, « Oui, bien sûr. » Alors, il voulait transformer l'Union soviétique en se basant un peu sur l'expérience canadienne et ce qu'il a vécu ailleurs. Mais la résistance était... D'abord, il y avait une corruption totale dans l'Union soviétique. Le communisme, c'était une faillite totale. Il le savait, d'ailleurs, il me l'a dit à plusieurs occasions. Mais il n'y a pas eu le temps de rebâtir et de restructurer l'économie soviétique. Et en conséquence, il y a eu quand même une espèce de désespoir qui s'est installé. Mais nonobstant tout cela, il a réussi à porter au niveau international une lueur d'espoir et des grands gestes tangibles qui ont marqué l'histoire.
Je regardais la liste des décisions prises. On peut penser au retrait des forces soviétiques en Afghanistan, de rendre public tout ce qui a entouré la catastrophe de Tchernobyl, également de permettre la libération de Sakharov, le dissident. Des gestes appréciés par le monde, par la planète, mais il y avait de l'opposition chez lui. Il y a des gens qui l'ont finalement sorti du pouvoir.
Oui, effectivement. Il était renversé, je pense, c'est en 91, l'été 91. Il y a eu un putsch contre lui alors qu'il était à Sochi, par la vieille garde. Et quand il est revenu, quand Yeltsin est intervenu auprès du Parlement avec un assaut, et Gorbatchev est revenu, il n'était plus le même homme. Je me souviens que j'ai eu des conversations avec lui ce jour-là et ces jours-là. Et on voyait que c'était un homme gravement atteint par cette push. Et puis il craignait non seulement pour son avenir, puis l'avenir de son pays, puis il avait tout à fait raison. Parce que lorsque je l'ai vu à Londres, par la suite... La même été, je pense, pour le G7, on voyait que ce n'était plus l'homme jovial, sympathique, confiant, qui aimait le rôle qu'il jouait au niveau international, le respect et l'admiration que la population, les populations, dis-je, avaient pour lui. Ce n'était plus le même homme. Mais quand il était sorti de la politique, Paul, je le voyais, on était à ce moment-là tous les deux sur le réseau international des speakers et puis des orateurs, et on se voyait à Houston, New York, Paris, Montréal, etc. Et il était un homme très agréable de commerce, un homme sympathique, qui était devenu démocrate. Il n'a pas commencé comme ça, mais qui était devenu démocrate, qui admirait énormément notre société de l'Ouest. Et c'était, comme je vous ai mentionné, un bon ami que j'admirais énormément et qui a laissé quand même une marque inoubliable sur le monde.
Question que j'entends souvent de la part des auditeurs, jusqu'à quel point un leader peut influencer le cours de l'histoire? Est-ce que l'histoire se fait naturellement par la force des mouvements, ou si des gens comme Reagan, comme Gorbatchev, comme vous, avez cette influence pour changer le cours des choses?
Eh bien, beaucoup, je pense, d'abord, en premier lieu, dans son cas, puis le cas de Reagan, ça dépendait sur deux faits. La force de leur économie et la force militaire, mais également le fait qu'ils disposaient d'armes nucléaires. C'était la menace totale qui existait, qui planait sur nous tous. Et donc, Reagan avait... Mais dans les deux cas, ils avaient des personnalités de vouloir s'entendre et de laisser derrière eux un monde meilleur. Alors, Gorbatchev, il a pris un grand saut, un saut énorme, parce qu'il voulait transformer d'abord l'Union soviétique et ensuite sa position internationale avec cette menace d'armes nucléaires et la guerre froide. Et ça prenait une personnalité et un désir personnel de vouloir le faire. Reagan, lui, il avait une tâche importante, mais moins importante, parce que l'Union, c'est-à-dire les États-Unis, était déjà une économie très forte, et puis avec une situation militaire qui devançait les Russes énormément. Mais ça prenait également de son côté. Et c'est grâce, ce fait important, Paul, c'est grâce en grande partie à l'influence et l'insistance de son épouse Nancy, qui disait à Reagan, « Ron, you have to leave behind you an achievement of peace, la paix. » Et finalement, elle a convaincu, pas seulement Nancy, mais d'autres, ont convaincu Reagan de son côté de faire le grand saut vers la paix avec Gorbatchev, ce qu'il a fait. Je me souviens, j'ai rencontré Gorbatchev pour la première fois au mois de mars 85, le même jour qu'il est devenu président de la République. Je l'ai rencontré pendant une heure au Kremlin. Et en revenant, je suis rentré immédiatement après pour être à Québec le 17 mars, une semaine après. Et j'ai rencontré Reagan pour le sommet à Québec, de la Sainte-Patrick. Et j'ai dit à Reagan, en le rencontrant, « Ron, on a trouvé le gars, je pense, j'arrive de la Russie, j'arrive de Moscou, le gars avec qui on peut faire affaire. » Il y a des possibilités maintenant pour nous de s'entendre sur des grandes questions d'actualité avec ce nouveau leader de l'Union soviétique.
En terminant, quel regard avait-il sur la Russie d'aujourd'hui, sur Poutine? Est-ce que vous avez pu échanger avec lui sur comment son pays a changé?
Il avait un mépris total pour ce qui est arrivé en Russie. Et il était d'abord favorable à l'idée de Poutine. Il a même assisté à son inauguration, etc. Il a lui donné conseil. Mais avec le fil des ans, il a perdu confiance et à la fin, parce que ce que Poutine a fait en Ukraine, c'est aux antipodes. C'est le total de ce que Gorbatchev voulait et faisait, jamais il serait intervenu de façon brutale auprès d'un pays ami. Donc, il a perdu confiance. Il y avait mépris, comme je mentionne, total pour son régime et pour le président Gorbatchev, pas le président Poutine lui-même.
Monsieur Mulroney, merci beaucoup d'avoir pris ce temps-là avec nous ce matin.
Avec plaisir, Paul.
Bonne journée. L'honorable Brian Mulroney, ancien premier ministre du Canada, donc de 1984 à 1993.
Vous écoutez L'Essentiel de Paul Arcan en 60 minutes. Bonne écoute.
Dans le cadre électoral, évidemment, les partis vont de propositions, d'engagements, de promesses, et le Parti québécois, hier, présentait un plan pour la réduction des gaz à effet de serre, et entre autres, le chef, M. Saint-Pierre Plamondon, a dit qu'il souhaite imposer à l'industrie automobile l'obligation d'offrir un marché composé de 50% de véhicules électriques dans 3 ans. C'est quand même rapide, là, 2025. Et ultimement, bon, ben, augmenter, puis on le voit dans d'autres juridictions, je pense à la Californie, où 2030, 2035 sont pas mal les objectifs visés. Alors, est-ce que c'est réaliste de penser que dans 3 ans, on pourrait avoir jusqu'à 50% de véhicules électriques vendus? On sait que la part de marché grimpe, mais que c'est relativement faible encore. Robert Poitty est le PDG de la Corporation des concessionnaires automobiles du Québec. Monsieur Poitty, bonjour.
Hey, bon matin, Paul.
D'abord, est-ce que c'est possible, est-ce que c'est réaliste de penser qu'en 3 ans, on pourrait augmenter la vente comme ça de véhicules électriques au Québec?
Ben écoute, Paul, si j'avais déjà entendu que les plus beaux rêves qu'on fait, il faut les faire les yeux grands ouverts. Dans ce cas-ci, M. Plamondon en a un de fermé, bêtement, et moi je connais bien Pascal Bérubé, j'ai siégé avec lui, je l'aurais appelé quand j'ai entendu ça hier pour lui. Mais c'est pas lui qui a déclaré ça, puis M. Nantel vient aider un peu M. Plamondon dans quelque chose qui, malheureusement, ne se sont pas assez informés ou ne connaissent pas le milieu. Premièrement, il parle des concessionnaires, faut parler des constructeurs, ça c'est la première chose. Deuxièmement, M. Nantel donne en entrevue, il dit c'est quand même incroyable qu'au Québec, on ne soit pas les champions de ça. C'est notre électricité. Ce que M. Nantel ne sait pas, c'est qu'au Canada, la province qui achète à peu près 50% de tous les véhicules électriques vendus au Canada, c'est acheté par des Québécois et des Québécoises. C'est déjà ça au moment où on se parle. Donc, je pense qu'il faut faire attention lorsqu'on envoie des chiffres comme ça en campagne électorale. Puis j'y étais en campagne électorale.
Là, j'entends mes auditeurs dire, là, c'est la réponse de Robert Poitty, l'ancien député libéral, non, qui attaque le PQ, là.
Ben non, mais c'est parce que c'est le PQ qui attaque les constructeurs automobiles, mais il attaque les concessionnaires en disant on va changer vos vies. Ça, c'est ses mots à lui. Puis on va changer la façon de faire au Québec. La réalité, c'est que c'est déjà en marche. Quand tu m'appelles, Paul, tu m'appelles à titre de PDG, moi je le dis. Moi, ce que je dis, c'est que puis je suis bien placé aujourd'hui pour le savoir. Ça fait 4 ans que je suis à la Corporation des concessionnaires. Il y a des milliards d'investis par les constructeurs pour des véhicules électriques. Là, il faut pas faire fi du COVID, de l'arrêt de construction des véhicules, des chaînes de montage, la problématique des puces électroniques. Il y a beaucoup d'éléments en place actuellement. Laissez sous-entendre que les concessionnaires ne veulent pas vendre de voitures électriques, c'est faux.
Non, mais attends un peu là. Non, mais c'est pas ça le point. Le point, c'est est-ce que quand un pays, une juridiction, adopte des règles strictes, sévères, les constructeurs vont livrer davantage de véhicules parce que la commande est plus forte. Pierre-Yves disait ce matin que dans le cas de Audi, on voit très bien qu'il y a beaucoup de véhicules qui vont nécessairement vers l'Europe. Si nous, on se contente de garder des critères bas, ben, c'est peut-être, on devient peut-être pas un client prioritaire non plus.
Ben, qu'ils le voudraient, les constructeurs, ils sont incapables de le faire actuellement dans la voiture électrique. On va se dire, la production des voitures électriques a été sévèrement ralentie à cause du COVID et c'est excessivement difficile. L'autre chose qu'il faut dire, les constructeurs mondiaux, là, ils regardent le marché un peu partout à travers la planète. Il faut qu'on soit capable de se comparer notre marché de 8 millions ici du Québec là avec l'ensemble de l'Europe. Là. Il faut faire attention avec ça. Donc, mettre une pression sur les constructeurs en pensant, ben là, on va les obliger. Notre rapport de force, on va être bien honnête, Paul, est pas très fort. Maintenant, je comprends pas qu'on félicite pas les Québécois puis les concessionnaires d'être les meilleurs au Canada ou à peu près. M. Nantel dit, même un jour, ça sera peut-être nos batteries. GM vient d'investir des millions de dollars à Bécancour pour une construction, une usine de construction de batteries. Alors, qui va fournir, cependant, pas que le Québec, là, qui va fournir le Canada. On n'en construit pas de voitures électriques au Québec, Paul. Alors, je pense que on non, est mais, un succès québécois.
Oui, mais prenons l'exemple. Oui, mais l'exemple de la Californie qui a des règles, là, un calendrier très, très strict, plus strict que n'importe quel État américain. Les constructeurs vont être obligés de se soumettre puis de livrer des véhicules s'ils veulent garder le marché.
Oui, mais on peut regarder la population de la Californie, regarder celle du Québec. Non, non, mais malheureusement, pas, c'est une question d'offre et de demande, mais de clientèle. Je veux dire, la Californie, on ne représente pas la Californie sur le plan du marché de la vente des véhicules. Mais en même temps, on a 46 modèles électriques 100%. Là. Il y a de plus en plus de véhicules. C'est vrai qu'actuellement, c'est difficile. Puis c'est vrai également qu'il y a des délais pour certains modèles qui sont plus prisés, là. Hein, on les connaît, là, on va se le dire, là. Donc, à partir de là, il faut donner le temps au temps, mais on est en avance. On y va, on va vers là, au lieu de s'attaquer aux concessionnaires qui représentent 45 000 employés du Québec. La deuxième force économique, on dit, non, on va mettre la pression, on va changer vos vies. Ben, il faudrait qu'ils changent, mais de la bonne façon.
Mais moi, j'ai pas vu ça comme une pression sur les concessionnaires. Moi, j'ai vu ça comme une pression sur l'industrie. Je comprends qu'il y a un contexte particulier qu'on a vu après la COVID, enfin, pendant et après. Mais dans 3 ans, je peux pas croire qu'on n'aura pas, ou 2-3 ans, retrouvé une capacité de production quand même.
Je pense. C'est possible. C'est fort possible. Il faut se donner ça, 2-3 ans. Mais là, 2-3 ans, il veut changer les règles immédiatement ou à peu près. Et dire, ben tiens, moi, je vais m'attaquer aux constructeurs. Mais le titre, c'est vraiment les concessionnaires, les propos. Mais en dehors de ça, les concessionnaires vendent les produits que les constructeurs sont capables de fournir. T'as raison, Paul, de dire, on doit les forcer. On a déjà fait, c'est prévu dans les lois. Maintenant, on veut raccourcir de 5 ans. C'est-à-dire, à moins que je me trompe, la ligne bleue n'est pas finie encore à Montréal. Il y a 18 ministres, dont moi, qui avaient annoncé que c'était pour se terminer. Alors, ce que je dis, c'est que prenons le temps de faire ce qu'il faut faire. C'est tout. On peut pas aller plus vite. Et dans un contexte aussi, actuellement, dans un contexte de pandémie qui a ralenti l'ensemble de l'œuvre à tous les niveaux. Alors, tu sais, il y a plus de puces électroniques dans un véhicule aujourd'hui que dans un F-18. C'est plate à dire, mais c'est ça la réalité, là. Fait que moi, je pense que le Québec figure très bien. Les Québécois sont conscientisés. Faut qu'on continue.
Ben, on est conscientisés, mais on est subventionnés pas mal aussi pour les acheter, là.
Aussi. Mais c'est vrai, parce que lorsque c'est des nouvelles plateformes, regarde, là, on vient d'être informé à Québec qu'il y a eu un incendie avec un véhicule électrique à l'intérieur d'un établissement de condo. Alors, est-ce qu'il y a des ajustements des constructeurs? Les grands constructeurs en ont eu certains problèmes. Ce sont des nouvelles technologies, des nouvelles plateformes. Il n'y en a pas qu'un seul qui en a eu, là. Donc, évidemment, il y a des ajustements à faire. Il y a de l'amélioration à faire. Il y a aussi de tenir compte des spécificités, là. On n'est pas en Californie ici avec les batteries. Donc, on sait aussi que l'hiver, ça amène aussi une autre problématique. La superficie du Québec, tu la compares à Suède, là, on va repasser, là. On n'est pas en même place. Fait que, il faut juste s'adapter. Puis je pense qu'on le fait bien au Québec. Les concessionnaires aussi, les constructeurs de plus en plus. Malheureusement, la disponibilité, t'as raison, elle est pas là actuellement pour l'électrique. Mais si on se donne un temps, puis tu l'as dit toi-même tantôt, moi, je pense que dans 2 ou 3 ans, ces délais-là, si rien d'autre se produit, ben, ils vont être derrière nous. Maintenant, il y en a des possibles, des véhicules qui prennent pas un an. Maintenant, dans certains modèles de niche, on le sait, oui, ça arrive actuellement. C'est malheureux, mais c'est comme ça.
Parfait. Merci. Bonne journée, Robert.
Au revoir.
Robert Poitier de la Corporation des concessionnaires automobiles du Québec.